Espace 2. L'histoire, les sciences humaines, la philosophie, la géopolitique et les sciences, c'est tous les jours, dans les temps qui courent, sur Espace 2, à 8h30 et à 19h30.
L'entrée des Scaramouches, l'entrée des Trivelins, l'entrée des Arlequins, la chaconne des Scaramouches, la chaconne des Trivelins et la chaconne des Arlequins. Et nous dirons la sortie des Scaramouches, la sortie des Trivelins et la sortie des Arlequins sur la pointe des pieds, les matinales sur Espace 2. C'est tous les jours de 6h à 8h30. À l'instant, nous étions avec Jordi Savall, le concert des nations et le bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Lully.
Grande fête biennale de la musique, la Schubertia d'Espace 2 est de retour en terre fribourgeoise après 19 ans d'absence. Les 1er et 2 septembre, plusieurs centaines d'artistes et des dizaines de milliers de spectateurs convergeront dans les rues et les salles de la ville de Fribourg pour témoigner en toute convivialité de leur passion pour la musique. Location des billets au 021 318 18 88 et renseignements sur www.schubertiade.ch ou auprès de Fribourg Tourisme. Avec le magazine L'Hebdo et le quotidien La Liberté.
Espace 2, Nicole Duparc.
Avant-dernier volet de notre état des lieux provisoire de la mondialisation, une série qui vous est proposée en nouvelle diffusion dans les temps qui courent. Aujourd'hui, place à la réflexion philosophique. Soyez les bienvenus. Bernard Stiegler est philosophe. On lui doit notamment ce dernier ouvrage « Réenchanter le monde » paru chez Flammarion, dans lequel il constate que la vie de l'esprit est de plus en plus soumise aux impératifs de l'économie de marché. Et c'est pour réagir contre cette tendance lourde de nos sociétés hyper-industrielles qu'il a fondé il y a 2 ans avec 4 compagnons philosophes l'association Ars Industrialis. Objectif, poser les bases d'une politique industrielle, technologique, qui offrirait à l'esprit humain des possibilités de s'épanouir. Vaste programme. Marc Berman a rencontré le philosophe. Explication.
Bernard Stiegler, dans « Réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel », vous écrivez que nous, les humains du XXIe siècle, nous savons qu'il nous faut devenir plus lucides, plus spirituels et plus responsables que jamais, et que nous savons en même temps que jamais l'humanité n'a été aussi aveuglée, abrutie et irresponsable. Pour commencer cette émission, Bernard Stiegler, j'aimerais qu'on comprenne comment un tel paradoxe a pu se construire.
Eh bien, c'est une question d'organisation du capitalisme, du développement de la société industrielle, qui s'est faite progressivement autour, ça va peut-être sembler un peu paradoxal de poser le problème comme ça, mais autour de la libido. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on appelle l'esprit, l'intelligence, la culture, c'est le produit de ce que Freud appelait la sublimation. C'est-à-dire que c'est une transformation du désir en puissance d'organisation sociale.
Le désir a une véritable fonction dans l'organisation du social pour vous?
C'est la base de l'organisation sociale, le désir. C'est la base. Ça, c'est bien avant Freud que ça s'est dit. C'était Aristote qui a le premier à avoir posé que une société repose sur la constitution d'un désir. Or, le capitalisme, au début du XXe siècle, a rencontré un problème que Karl Marx avait identifié dans le Capital, qui était le problème de la surproduction. Et la solution que le capitalisme, en sorte surtout le capitalisme américain, a trouvée à ce problème, ça a été de développer des techniques de captation du désir et d'orientation du désir, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'énergie libidinale, vers les objets de la consommation et de la fabrication artificielle des besoins par cette captation de la libido. C'est la raison pour laquelle se sont développées la publicité, le marketing, les industries culturelles et toutes ces technologies de communication et d'information qui sont d'abord faites pour capter notre attention et pour la canaliser en tant que désir vers ce qui correspond aux investissements industriels. Ça a fonctionné pendant presque un siècle de manière tout à fait efficace. Même à un moment donné, je crois que ça a produit un véritable bonheur social. Mais depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, je crois que c'est à partir de Halte à la croissance qu'on a commencé à ressentir un malaise par rapport à ce développement. Il y a eu 2 choses qui sont apparues simultanément. D'une part, on s'est aperçu que ce qu'on appelle la croissance, en tout cas telle qu'elle est organisée aujourd'hui, avait des limites liées à des questions écologiques, évidemment.
Et des questions de matières premières aussi.
Des questions de matières premières, des questions d'atmosphère, des questions de démographie, des questions de saturation. Par exemple, la ville de Paris est aujourd'hui absolument saturée d'automobiles. On peut plus circuler pratiquement en automobile dans Paris. Donc ce système est arrivé à ses limites dans toutes sortes de domaines, mais aussi au niveau environnemental, je parle de l'environnement physique et social, mais aussi il est arrivé à un stade où, à force d'exploiter la libido individuelle et collective, il est arrivé à la détruire, cette libido. Une raison compréhensible aisément, qui est que la libido Les objets de la libido, ce sont des objets qui ont pour caractéristique d'être incalculables. Par exemple, si on aime quelqu'un, on considère que ce quelqu'un n'est pas comparable aux autres. Et donc, ce qui n'est pas comparable n'est pas calculable. C'est de l'ordre de l'incommensurable, l'objet du désir. Or, l'industrialisation de la captation du désir a fini par rendre toute chose commensurable. Et maintenant, c'est substitué à une économie du désir, une économie des pulsions. Aujourd'hui, on vit dans un capitalisme pulsionnel.
Alors, on va revenir dans le détail sur ce qui est arrivé au désir durant ces 40 dernières années, Bernard Stiegler. J'aimerais juste encore qu'on définisse une chose. Pour vous, il y a une valeur suprême dans le monde humain, c'est la valeur esprit.
Oui, c'est une expression en vérité que je prends à Paul Valéry, qu'il a employé en 1939 dans une conférence au cours de laquelle il a dit devant des personnages de l'Institut que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'esprit était une valeur qui était en baisse. Il a parlé de la baisse de la valeur esprit. Et il a dit, maintenant, l'esprit est devenu le cœur de la société industrielle. Il nous faut apprendre à accepter qu'en fait, les œuvres de l'esprit soient d'abord les œuvres industrielles, et pas simplement des œuvres d'art ou des œuvres de philosophie ou de science. Mais, disait-il, ce devenir qu'il faut accepter, qu'il faut revendiquer même, aujourd'hui rencontre une limite et il n'est pas traité, et donc il va falloir faire une critique de l'économie politique de l'esprit. Il dit cela quelques mois avant l'explosion de la Deuxième Guerre mondiale. Et il sent venir une catastrophe, il annonce qu'il y a une catastrophe à l'horizon. Et je crois, moi, que nous sommes aujourd'hui à un point incommensurablement plus grand, arriver à cette baisse de la valeur esprit qui développe ce que j'appelais à l'instant un capitalisme pulsionnel.
Et vous soulignez dans ce livre « Réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel », comme Paul Valéry d'ailleurs, que la valeur esprit est mise en péril aujourd'hui, et pour vous, elle est mise en péril par une chose que vous appelez donc le populisme industriel. Il va falloir donner une définition.
Mais le populisme industriel, c'est ce qui exploite systématiquement les pulsions. Le capitalisme exploite le désir, mais je dirais que toute société humaine exploite le désir. Par exemple, la grande chrétienté, y compris celle qui pratique l'inquisition, exploite le désir. La papauté est une organisation de l'économie libidinale. La Chine impériale est une autre organisation de l'économie libidinale. Toutes les sociétés chamaniques, n'importe quel fait social humain s'inscrit dans une économie libidinale. Si on entend par là le fait de transformer ces pulsions, qui sont intrinsèquement égoïstes, qui sont agressives, qui sont tournées, je dirais, contre l'autre, en un pouvoir de sublimation, c'est-à-dire en un désir. Pour moi, le désir, c'est de la sublimation. Et les sociétés n'existent pas sans désir.
Or, pour vous, le désir, c'est une motivation de faire quelque chose aussi.
C'est la motivation de faire quelque chose, et c'est la capacité à s'attacher à quelque chose qui n'est pas soi, et à se vouer à cet autre que soi, dont, éventuellement, l'autre citoyen, l'autre qu'est l'objet mathématique, c'est la passion pour autre chose que soi. Alors que la pulsion est totalement aliénée dans elle-même. Et la destruction par le capitalisme du désir conduit à la pulsion pour une raison très simple, que Freud a très bien expliqué dans un essai extrêmement connu qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir », que finalement ce qu'on appelle le désir, c'est la façon dont les pulsions se lient les unes par rapport aux autres et se neutralisent les unes les autres et se transforment en un pouvoir de liaison, pas simplement des pulsions, mais des individus entre eux. Aujourd'hui se développe un populisme industriel parce que, à force d'exploiter le désir de manière industrielle, on a détruit cette capacité de liaison et du coup, l'économie libidinale capitaliste est devenue inefficace, donc c'est substitué à un populisme industriel qui n'hésite pas à développer des comportements totalement pulsionnel, par exemple, à développer, évidemment, la sollicitation des pulsions sexuelles, c'est évident, la violence, tous les mimétismes grégaires, et tout ce qui relève de ce que Freud appelle la masson-psychologie, c'est-à-dire la psychologie des foules. Dans un autre livre que celui dont on parle d'ailleurs, qui est « La télécratie contre la démocratie », je montre comment Freud a montré que nous allions vers une psychologie des masses, une manipulation des masses, mais que ces masses promettaient malheureusement, pour lui c'était le nazisme qui était en train de s'annoncer dans ce devenir.
Et pour vous aujourd'hui, nos sociétés sont gérées par ce que vous appelez des technologies de contrôle, on va revenir sur ce terme tout à l'heure, ces technologies de contrôle qui massifient des comportements de production et de consommation. Est-ce que ça veut dire que les individus sont manipulés, et si oui, par qui, pourquoi ?
Comprenons-nous bien, c'est un sujet difficile. Hein. Ils sont manipulés, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des complots et des gens qui calculent comment on va les manipuler. Il y a des mécanismes qui se sont mis en place. Ces mécanismes ont une efficience indubitable, et à partir du moment où ils sont efficients, ceux qui les mettent en place essayent de les améliorer, de les renforcer. Ça conduit évidemment à une manipulation. Vous avez entendu évidemment, je pense, parler en Suisse comme en France de la déclaration de Patrick Lelay. La télévision.
Créer des espaces libres pour la publicité, finalement, dans les cerveaux.
Ouais. C'est ça, et ça sert à rendre le temps de cerveau disponible, voilà, à Coca-Cola, comme il disait. Bon. Ça, c'est un système qui repose intrinsèquement sur la destruction de la conscience, c'est-à-dire que le cerveau est vidé de sa conscience, il devient un pur système réflexe, un système mimétique, et il est manipulable en effet là par des dispositifs qui sont alors là très très systématiquement étudiés dans les universités du monde entier, surtout aux États-Unis, pour faire en sorte que, avec ce qu'on appelle le marketing neuronal par exemple, le marketing viral, enfin toutes ces technologies de marketing, on puisse véritablement créer des processus mimétiques massifs et de plus en plus contrôler les comportements. En même temps, là où ce système est extrêmement puissant et dangereux, c'est qu'il donne l'impression que tous ces comportements sont individuels. Parce qu'on parle, on n'arrête pas de parler de l'individualisme contemporain. Pourquoi est-ce qu'on parle d'individualisme contemporain ? C'est parce que précisément le désir est détruit par la pulsion. Et à partir de là, tous ces comportements sont égoïstes. Mais ils sont égoïstes en un sens mimétique. Parce que dans un troupeau d'animaux sauvages, il y a aussi des comportements très égoïstes et mimétiques. Et on a l'impression que chacun est tourné sur lui-même, ce qui est le cas, mais en même temps, cette façon d'être tourné sur soi-même aboutit à faire la même chose que les autres, c'est-à-dire à perdre son individualité. Moi, je suis un individualiste. Quand je dis cela, c'est pas au sens courant du terme, c'est au sens où Nietzsche a dit qu'il fallait revendiquer un individualisme, c'est-à-dire que je suis pour l'épanouissement de l'individu. Mais je ne crois pas que cet épanouissement de l'individu aujourd'hui soit du tout ce qui est mis en œuvre par ce capitalisme populiste. C'est au contraire aujourd'hui la misère de l'individu. On voit bien que les gens souffrent terriblement de ne pas exister. J'avais écrit un bouquin il y a quelques années sur Richard Durne qui avait massacré 8 personnes au pistolet mitrailleur et qui avait écrit dans son journal intime très peu de temps avant de faire cela « Je n'ai plus le sentiment d'exister et je vais devoir commettre le mal pour au moins une fois dans ma vie avoir le sentiment d'exister ». Nous vivons ça aujourd'hui dans toutes sortes de situations et c'est ce qui crée une tension dont je crois d'ailleurs que la Suisse y est relativement... en est relativement épargné, je dis relativement. Je
Pourquoi
connais pas bien ce pays, mais je dis ça parce que j'y suis allé plusieurs fois ces derniers temps et j'ai l'impression que malgré tout, on n'a pas cette destruction, par exemple, des modes de vie dans les petites villes françaises. Si vous allez, je sais pas, à Bourges ou dans ces villes moyennes de 30-40 000 habitants, tout est détruit. Il n'y a absolument plus de centre-ville. Il y a des immenses zones commerciales absolument abominables, avec des supermarchés absolument abominables et des gens qui se comportent vraiment comme des zombies. On a l'impression d'être dans Métropolis de Fritz Lang, sauf que ce ne sont plus des travailleurs qui se comportent comme ce sont les consommateurs. Ce capitalisme est un capitalisme de la consommation, de la production de gens qui sont des consommateurs et qui sont devenus des consommateurs malheureux. Parce qu'il y a une époque où les consommateurs étaient heureux de consommer. Moi-même, j'ai connu cette époque quand j'étais petit.
Mais aujourd'hui, c'est l'après-guerre, finalement.
Oui, c'était l'après-guerre, ouais. C'était ce qu'on a appelé la reconstruction.
Et comment se fait-il que les modes de consommation aient tellement changé qu'aujourd'hui, le consommateur, comme vous dites, est malheureux? Et vous allez beaucoup plus loin, parce que vous dites que le consommateur, bon, il est malheureux, mais il est déchargé de son existence.
On a vu se développer surtout depuis les années 70, ça a commencé dès l'après-guerre, mais ça a commencé à se développer vraiment de manière importante à partir des années 70, ce qu'on appelle un capitalisme de service. Pourquoi un capitalisme de service ? Bah, c'est d'abord parce que les ménages se sont équipés en automobile, en téléphone, en machine à laver, etc. À un moment donné, il y a une saturation de l'équipement, donc il faut bien trouver de nouveaux modèles économiques pour développer l'activité. Et on s'est dit, bah, on va créer du tourisme de masse, on va créer des maisons de retraite industrielles, on va créer toutes sortes de dispositifs de ce type. On va s'adresser en particulier aux enfants, à l'industrie des premiers âges, etc. Et on a développé des industries de service qui ont pour effet que progressivement, ces offres vous déchargent absolument de toute responsabilité et de toute décision. Par exemple, on vous dit, vous avez des vacances cet été, ne vous occupez de rien. On va vous louer les billets d'avion, on va vous prendre un hôtel. Le soir, vous n'aurez même pas à vous demander ce que vous faites. Il y aura un système de distraction automatisé qui s'occupera de vous. Et c'est vrai pour l'éducation de vos enfants, c'est vrai pour le vieillissement de vos parents, c'est vrai pour absolument tout ce que vous faites. Et progressivement, vous devenez quelqu'un qui n'a plus aucun savoir. Parce que quand on ne fait plus la cuisine, quand on ne conduit plus sa voiture, voitures. Parce que bientôt, vous aurez des voitures où vous n'aurez plus besoin de conduire. Elles se conduiront toutes seules. J'en parle très sérieusement parce qu'à l'université de Compiègne où je travaille, il y a des gens qui réfléchissent sur l'autoroute électronique qui permet une automobile que vous n'avez plus besoin de piloter. Donc vous pouvez regarder la télé qui, pendant ce temps-là, va vous vendre du voyage, etc., etc. Donc votre temps de cerveau est absolument totalement disponible, y compris quand vous êtes dans la rue avec votre téléphone portable qui va vous envoyer des messages avec des liaisons Bluetooth, etc. Tout ça est absolument effrayant et ça crée par ailleurs une situation d'addiction. Parce que dans les familles, par exemple, qui regardent la télévision 5-6 heures par jour, il y en a beaucoup. La moyenne en France, c'est 3h30, mais il y a beaucoup de familles qui regardent beaucoup plus que 3h30. Ces familles-là ont été totalement détruites. Les gens ne savent absolument plus parler, ils ne se supportent plus. Ils ont peur d'éteindre la télévision. Parce que s'ils éteignent la télévision, ils se tapent dessus. Ou ils se séparent. Donc, on est dans une situation d'addiction. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que Télérama, il y a un an et demi, en France, avait publié un sondage disant 56% des Français considèrent que la télévision qu'ils regardent est mauvaise. Mais ils la regardent quand même. Alors le journaliste dit, comme c'est quand même très bizarre, ces gens-là sont bizarres. Mais c'est pas du tout bizarre. Ils sont dépendants. Ils sont devenus intoxiqués. Ils ne peuvent plus se passer d'une drogue qui s'appelle la télévision. Alors nous, dans Ars Industrialis, nous disons, ça c'est une situation scandaleuse, dangereuse, qui nous conduit dans le mur. En ce moment, vous voyez, la campagne électorale populiste en France, c'est une catastrophe. Bon, mais c'est dans le monde entier comme ça. En France, peut-être un peu plus qu'ailleurs en ce moment. Et nous pensons que ces technologies devraient être des technologies de l'intelligence. Par exemple, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, il y a eu une crise qui s'est produite dans la cité grecque avec le développement de l'écriture réappropriée par les sophistes. Et ça a développé une situation de guerre civile qui a existé. Les Grecs se sont fait la guerre entre eux, ces fameuses guerres du Péloponnèse, etc. Mmh. Et la philosophie s'est mobilisée contre les sophistes en disant « mais c'est un usage éhonté de cette technique de communication qu'est l'écriture qui a provoqué cela. » Évidemment, il n'y avait pas que ça. Il y avait des motifs de crise économique, d'expansion du système athénien, etc. Mais il y a indubitablement une crise morale qui se produit là et qui passe par la technicisation de la communication. Et la réponse à cela, c'est pas du tout de détechniciser, c'est de réarticuler cette technicisation sur un nouveau modèle politique. Dans Ars Industrialis, c'est ce que nous disons. Et nous disons qu'il faut inventer une nouvelle économie politique et industrielle qui repose sur une socialisation des technologies de communication et d'information, des technologies culturelles et cognitives, au moment où d'ailleurs on n'arrête plus de nous parler de la nécessité de produire une industrie de la connaissance, un capitalisme cognitif, qu'il faut élever le niveau des savoirs, etc. Le paradoxe, c'est qu'on dit ça et en même temps, on développe des technologies qui crétinisent le monde. Justement. Mais c'est pas du tout une fatalité. La radio peut très bien, par exemple, et il y a des radios qui le font, être au service de la réflexion et de la culturation.
J'aimerais comprendre comment l'esprit pourrait reprendre ses droits au sein de nos sociétés telles qu'elles évoluent dans leur mode de production et de consommation, Bernard Stiegler. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui ?
Ben moi d'abord, Ars Industrialis, nous proposons une politique européenne. Et nous proposons que cette politique européenne soit une politique publique, alors portée dans les différents pays. Et il faut déjà, en France en ce moment, moi j'essaye de harceler un peu Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en disant « Exprimez-vous sur ces questions, dites-nous ce que vous avez l'intention de faire. » Mais je pense que c'est au niveau européen qu'il faudra vraiment concrétiser une politique publique. Quand je dis publique, ça ne veut pas dire que les acteurs privés n'en font pas partie. Ça veut dire qu'elle est décidée à plusieurs, qu'elle est mutualisée, que les États jouent un rôle, investissent de l'argent public, avec l'armée, avec l'université, avec toutes sortes d'instances publiques, mais aussi en partenariat avec des grands industriels, pour mettre en place un nouveau modèle industriel. Ce nouveau modèle industriel doit reposer sur les technologies de la connaissance et les technologies culturelles, mais ces technologies, elles ne peuvent se développer qu'à la condition d'investir dans le long terme. Actuellement, on voit se développer par exemple les podcasts et toutes ces choses-là, les blogs, bon, ce qui est très très bien. Moi, je l'ai fait des années que je me bats pour que ces choses se développent. Mais on voit que actuellement, c'est développé par TF1, c'est développé en France par Skyrock, c'est-à-dire par des mécanismes. Ce sont des technologies de contrôle, à nouveau, encore plus efficaces que les autres. Et il faudrait que la puissance publique intervienne pour en faire des technologies de ce que nous appelons, nous, des processus d'individuation.
En fait, vous dénoncez une récupération de systèmes de communication, de techniques de communication qui sont mises en place soit par des individus spontanément, soit par des services publics, une récupération par des industries privées pour, simplement, pour au final générer du profit aux dépens de l'utilisation, j'allais dire spirituelle qu'on peut en faire.
Oui, tout à fait. Et je dénonce aussi le renoncement des hommes politiques et des pouvoirs publics à toute initiative dans ce domaine, et en particulier la Commission européenne. C'est absolument honteux que la Commission européenne ne porte aucune politique dans ce sens-là, parce qu'il est tout à fait possible, c'est sa mission, elle est là pour cela, et elle dit il faut laisser jouer le marché. Madame Reding, qui est commissaire européen, a dit il faut augmenter le temps de publicité, il faut encore libéraliser encore plus la publicité sur les chaînes de télévision. Mais c'est totalement irresponsable de faire des déclarations de ce type, parce que ça signifie qu'on va encore faire peser plus lourd le poids des prescripteurs du marketing et de la consommation sur les programmes. Donc ça ne veut pas dire, je ne dis pas du tout qu'il faut supprimer la publicité, mais je dis qu'il faut, au moment où il y a une mutation technologique majeure avec les réseaux à haut débit, avec toutes ces technologies qu'on appelle de convergence, avec le numérique, il faut absolument que l'on investisse massivement dans ces technologies. On a investi dans les autoroutes et dans les trains pendant des années, des décennies. Jules Ferry avait investi dans l'écriture, l'imprimerie et l'école en 1880. Aujourd'hui, il faut que nous investissions là-dedans en développant de la recherche-développement et en installant des nouvelles pratiques sociales de manière très volontariste.
Oui, mais Bernard Stiegler, qu'est-ce que peut faire une association d'intellectuels comme la vôtre, comme Ars Industrialis, contre des pouvoirs financiers qui font résistance? Et vous le constatez bien. Qu'est-ce que finalement la philosophie peut faire contre des pouvoirs économiques énormes?
Alors d'abord, nous ne sommes pas que des philosophes ou des intellectuels. Il y a chez nous des médecins, il y a des économistes, il y a même des banquiers. Et d'autre part, vous avez peut-être noté que Joseph Stiglitz vient de publier un livre en disant que le capitalisme...
L'ancien directeur du FMI, oui.
Est devenu dangereux, c'est aussi un prix Nobel d'économie. Que Jean-Pierre Levade, ancien patron d'une des plus grandes banques de France, a écrit Le capitalisme total, où il dénonce la financiarisation du capitalisme. Que le patron du service économique de la Caisse des dépôts, M. Artus, a publié le capitalisme est en train de s'autodétruire. Moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de gens de l'entreprise qui sont extrêmement inquiets de ce qui se passe. Donc, ils cherchent, et d'ailleurs, ils viennent de temps en temps nous voir, à Ars Industriels, pour nous dire, est-ce que vous n'auriez pas quelques idées? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un processus de prise de conscience qui se produit, y compris en Suisse d'ailleurs, parce que je suis allé plusieurs fois en Suisse et j'ai rencontré des gens qui travaillent dans le domaine bancaire ou dans le domaine de l'assurance, où on voit que